Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est podcasty. Autrement dit, je ne vais pas me répéter, mais je le fais quand même pour les moins réactifs d'entre vous. Le jour où Popopop se transforme en Popopodcast, soit l'émission consacrée au podcast. Ce phénomène qui révolutionne l'usage et le format de la traditionnelle radio et semble en être le complément idéal au lieu d'embrouiller l'écoute. Et aujourd'hui, ce n'est pas un Popopodcast comme les autres puisqu'il va me permettre de recroiser la route d'un journaliste que j'ai fréquenté de près pendant 2 ans au quotidien dans une émission qui avait pour titre Le Grand Journal et que tous ceux nés après 2015 ont peu de chances d'avoir connu et qui est attaché sur la banquette arrière de la voiture familiale au sortir de l'école vont même peut-être entendre le nom pour la première fois. Écoutez bien, les enfants, Jean-Michel Apathy. Oui, Jean-Michel Apathy. Ah, Jean-Michel, je garde un excellent souvenir de sa fréquentation, de sa sagacité, de sa ténacité de pitbull face à des politiques toujours prêts à noyer le poisson, comme on dit. Eh bien aujourd'hui, Jean-Michel a son podcast et c'est lui que nous allons mettre à l'honneur dans cette émission. Alors peut-être que Jean-Michel a pâti, les enfants, mais aujourd'hui, ben Jean-Michel a revenu. Popopop Podcast, épisode 29, c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Antoine, on ne me l'avait jamais faite celle-là.
C'est
Jean-Michel Apathy, Jean-Michel revenu.
Non, c'est incroyable.
C'est la première fois.
Incroyable.
Rien que pour ça, je suis heureux d'être avec vous. Et avant de commencer, peut-être vraiment, je conserve le même souvenir de notre travail commun, il y a si longtemps, dans un lieu si formidable.
Très bien, ben voilà l'émission qu'elle démarre bien. Bienvenue dans Popopop Podcast. Vous voyez Jean-Michel, nouvelle émission, balle neuve, mais l'humour est intact.
Hein, heureusement.
Je me permets de le souligner. Alors avant toute
gardons
chose,
cela.
Arrivez-vous à prononcer correctement le nom de notre émission ?
Popopop Podcast.
Pas mal.
Popopop Podcast. Et sans, ouais, deux fois de suite.
Et sans accent ?
Sans accent ?
Ouais.
Popopop Podcast.
Ah, très.
C'est la première fois que j'essaie.
C'est la première fois que
je vous en général, je ne me risque pas à ça.
Bravo. Alors, bienvenue à ce micro. Un micro que vous connaissez bien pour avoir officié sur France Inter il y a déjà quelques années.
Oui.
Ça vous fait quoi d'être de l'autre côté du micro, dans la position de l'interviewé ?
J'y suis assez détendu pour deux raisons. D'abord parce que le fond du sujet m'amuse et m'intéresse et parce que je suis heureux de faire cette émission avec vous. Donc je ne vis pas ça comme une torture ou une contrainte. Mmh. Je suis venu vers vous avec plaisir.
Alors Jean-Michel, on se connaît depuis quelques années, mais il y a une question que je ne vous ai jamais posée.
Est-ce qu'il faut le faire ?
Oui, je crois qu'il faut le faire. Quel effet ça vous fait de s'appeler Apathy, c'est-à-dire le synonyme de l'ataraxie, de la mollesse, de l'incapacité à réagir, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que vous êtes et de ce que vous représentez.
Oui, ça, vous avez raison, il doit y avoir une petite contradiction, mais en fait, mon nom s'écrit A-P-H-A-T-I-E et pas A-P-A-T-H-I-E, parce que l'ataraxie, c'est A-P-A-T-H-I-E, et moi, c'est A-P-H-A-T-I-E.
Oui,
et au Pays Basque, Apathy, ça veut dire... Ça renvoie à l'abbaye, et ça signale quelqu'un, il aurait fallu faire de la généalogie, ce que je n'ai pas fait, quelqu'un qui travaille avec le curé, ou qui vit à côté de l'abbaye. Et donc, Apathy Berry, pour ceux qui connaissent, il va bien avoir quelques basques qui nous écoutent, c'est la maison à côté de l'église.
D'accord.
C'est un peu ça l'idée, le Berry a disparu, il est resté Apathy, et comme les Français pensent que tout tourne autour d'eux, on écrit mal mon nom, A-P-A-T-H-I-E, et donc on en arrive à me demander pourquoi je suis moins endormi que ne le suggère mon nom. Voilà.
Et j'apprends donc
est-ce que la réponse est...
Oui, la réponse est évidemment satisfaisante, comme toujours avec vous,
d'accord,
mais j'apprends donc au passage que vous travaillez avec le curé.
Le curé, alors, des ancêtres.
Oui, pas vous. Jean-Michel...
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, là. Avec le curé, exactement.
Je veux même pas le savoir.
Moi non plus, j'ai jamais cherché vraiment.
Alors Jean-Michel, nous allons parler aujourd'hui de votre podcast qui a pour titre « Allons enfants de l'Apathy ».
Oui.
Alors pardon, mais les jeux de mots sur les noms de famille, ça c'est mon fonds de commerce à moi, si vous voulez bien, depuis 1953. Vous n'avez pas un peu l'impression de marcher sur mes plates-bandes, là ?
Si, oui, oui, mais quand on a trouvé le titre, en fait c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Pénélope Boeuf de la Toile sur Écoute qui l'a trouvé, et je lui ai dit, mais est-ce qu'Antoine de Cône, ça va pas le chagriner un peu ? Elle m'a dit, je peux pas vous dire ce qu'elle m'a dit.
C'est-à-dire que vous faites toujours le même coup, vous dites que vous n'avez pas trouvé ce titre.
Alors c'est pas moi, non.
Je suis sûr que c'est de vous.
Mais je suis sûr. J'aurais pas osé.
N'auriez pas osé ? Pourquoi ? Sacrilège ?
Non, parce que sans doute un soupçon de modestie, voilà. Et qu'un tiers le trouve, je trouvais ça marrant. Voilà, donc banco.
Alors ce podcast, nous allons en parler avec une enfant de la partie. Cette fois-ci, c'est la célèbre clubeuse Charline Roux qui nous rejoindra dans un instant. Et ça, ce sera juste après Malédiction. C'est un morceau signé Bachung.
Tu additionnes, tu multiplies les petits câlins anonymes. Pour la faire mouiller la machine.
sur tes lèvres comme un lipsus. Et tu caresses ton personnel pour éviter que le vent ne cause. Laisse pas tomber comme ça l'épine, ça fait trop de peine à rose. Pourquoi faut-il, grand Manitou, que le magicien dose? Je m'allume et je passe sur ma lueur, sur tes lèvres comme un lipsus.
Malédiction, aucune relation bien sûr de causalité avec l'arrivée de Charline dans ce studio. Bonjour.
Vous n'en savez rien.
Charline.
Bonjour.
Et soyez évidemment la bienvenue, si si je vous promets. Alors Charline, vous avez écouté un podcast.
Incroyable.
Ce podcast, c'est Les enfants de l'apathie et c'est signé Jean-Michel Apathie.
Incroyable. Hein.
Incroyable, hein. Expliquez-nous.
Alors, exceptionnellement, ce n'est pas moi qui m'y colle. Je me suis dit que comme le programme s'appelle Allons enfants, autant que ce soit les concernés qui s'y attellent.
Allons enfants de l'apathie, c'est le podcast qui donne des réponses à pas mal de questions que je me pose sur la politique. Par exemple, l'impact de l'essence sur le débat, l'histoire de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, ou encore l'importance de l'éducation dans la politique. C'est aussi le podcast qui va me permettre d'avoir des bonnes notes en histoire et en EMC. Alors je voulais vous demander Jean-Michel, vous n'avez jamais pensé à devenir prof?
Ah, il y a malin celui-ci. En fait oui, ça me... J'ai fait du journalisme politique avec la vocation, enfin l'envie d'être pédagogue. Et d'ailleurs, j'aurais voulu enseigner le journalisme. Ça m'aurait beaucoup intéressé. J'ai jamais vraiment cherché à le faire. Finalement, j'ai jamais réussi. Mais je pense que dans le journalisme, il y a une fonction pédagogique très importante. Donc, la question me paraît assez juste et j'espère y avoir bien répondu. Je ne sais pas comment se prénomme...
Juliette.
Juliette. Jeune donc, Juliette. J'espère y avoir bien répondu.
Dites-moi, Charline Roux, vous n'avez pas l'impression de sous-traiter un peu, là, dans cette émission?
Il faut bien qu'elle me rende un peu l'investissement, quand même.
Très bien. Alors, c'est avec mon écharpe tricolore que je demande à la régie de lancer la bande-annonce de votre podcast.
Comment peut-on vivre sans s'intéresser à la politique?
Oh, bah, ça se fait, hein.
Bien sûr, certains y arrivent, mais on peut s'en étonner. Vu tout ce qui est en jeu, il vaut mieux s'intéresser. Il vaut mieux écouter, essayer de comprendre, se renseigner, pour finalement, le jour où on nous demande notre avis, choisir nous-mêmes ceux à qui l'on veut confier le pouvoir. Puisque nous pouvons l'être, soyons citoyens. C'est dans cet esprit que vous pourrez écouter les podcasts qui racontent un peu l'histoire du pays, qui décryptent les institutions ou qui exposent des dossiers de fond.
C'est très clair.
La politique est notre bien commun et n'oubliez jamais ceci.
Quoi ?
Si vous ne vous occupez pas d'elle, de toutes les façons, elle s'occupera de vous.
Drop the mic.
Chômage, politique internationale, Assemblée nationale, éducation, essence, Conseil constitutionnel, Matignon, dette, rôle des députés, nucléaire, constitution, sénateur. Tout y passe, absolument ouais. Tout. En gros, c'est un peu la politique pour les nuls, expliquée par quelqu'un qu'elle passionne depuis toujours.
Oui, alors je dirais pas la politique pour les nuls. Je pense qu'il y a
c'est pas péjoratif du tout. Hein.
Non, c'est pas ça. Mais il y a des sujets quand même qui la dette, c'est pas un truc qu'on trouvera dans la politique pour les nuls. Ça, c'est quelque chose de personnel. Le nucléaire, moi, j'ai toujours pensé que le nucléaire, qui est un engagement énorme au regard de l'avenir de l'humanité, que ça ne fasse pas plus de débats entre nous, que ça aille de source, ça m'a toujours un peu choqué. J'ai envie de questionner le nucléaire. Donc, le retrouver dans un podcast, c'est un peu plus que pour les nuls. Dire ce qu'est le Conseil constitutionnel, oui, c'est basique. Les pouvoirs du président de la République, oui, l'histoire de Matignon, oui. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce que la politique me passionne? Alors, ça, oui. On ne sait pas pourquoi quelque chose vous passionne. Moi, mes parents étaient très éloignés de la politique.
Ça fait très longtemps que ça dure, quand même, Jean-Michel.
En fait, je crois que c'est la seule chose qui m'a jamais intéressé. Enfin, du moins dans la recherche des activités professionnelles et avouables. Le reste, on en parlera une autre fois. Mais mais j'ai mis du temps à découvrir ça, parce que j'ai quand même pris des chemins de traverse qui m'éloignaient de ça. J'ai quand même été garçon de café à Lourdes. Ça vous prépare pas à faire du journalisme politique. Le jour où j'ai compris que je portais ça en moi, j'ai apaisé beaucoup de mes angoisses dans la vie.
Mais à l'heure où on parle beaucoup de citoyenneté, c'est quand même pas mal. C'est important de rappeler qu'un bon citoyen, c'est un citoyen éclairé.
Ah oui, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la vie commune. Mais je pense, je sais pas si je vais arriver à bien le définir, et si je n'y arrive pas, vous m'en excuserez. Je pense qu'il y a des natures de désintérêt aujourd'hui qui ne correspondent pas aux désintérêts d'hier. Peut-être qu'hier, des gens ne s'intéressaient pas à la politique parce que ils n'avaient pas fait l'effort d'y réfléchir et d'essayer de comprendre. Aujourd'hui, il y a des comportements d'enfants gâtés, de gens, de jeunes qui ne voient pas ce que voter pour X ou Y va changer dans leur vie, et au fond ils n'ont pas tort, mais ça n'est pas une raison pour ne pas aller voter, qui ont une conscience politique, notamment au travers du combat à mener pour l'écologie, mais qui ne s'impliquent pas dans la vie citoyenne d'aujourd'hui, parce qu'elle les déçoit. Je comprends qu'elle les déçoive, mais ça n'est pas une raison pour ne pas s'y intéresser.
Par des illusions, par des enchantements.
Oui, par des enchantements, oui, le sentiment que on nous ment, ils racontent n'importe quoi, ils sont médiocres. Tout ça n'est pas faux. Et alors ? D'abord, si t'es pas content, fais-en. Voilà. Et puis, de toutes les façons, on ne peut pas démissionner de l'intérêt pour la politique, parce que, de toute façon, des choix seront faits, des décisions seront prises qui vont impacter notre vie. Donc, il faut participer à la réflexion et à l'action par le bulletin de vote.
Et c'est une question qui ne s'est jamais posée à vous, d'en faire, justement ?
Ah, oui, elle a dû se... Alors, pour être honnête, j'ai été membre d'un parti politique, c'est là que j'ai compris que j'étais absolument pas fait pour ça. Voilà, ça, si vous voulez, moi, à l'époque, il y a très très longtemps, François Mitterrand était président de la République. Je me suis inscrit, il faut que je raconte tout ça, sinon on ne comprendra pas. Je me suis inscrit, j'avais 24 ans, dans un truc pour passer l'équivalent d'un baccalauréat. Et parallèlement, le même mois, février 1982, je me suis inscrit au Parti Socialiste. Mais je n'avais pas compris, j'ai compris après, qu'en fait je m'inscrivais dans ces deux endroits pour apprendre à vivre, pour m'approprier des outils d'une réflexion. Et j'ai compris, en étant militant au Parti Socialiste, il fallait toujours dire que Mitterrand était formidable, moi j'y arrivais pas. Donc j'ai compris que j'étais pas fait pour l'action politique, mais que j'étais fabriqué pour le regard, pour pour la pédagogie sur la politique. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne ferai jamais de la politique. Je ne pense pas être candidat en 2027. Que le journalisme politique était un peu ce qui m'attirerait.
Vous y engagez ici formellement.
Oui, je pense que je peux le dire, je ne serai pas candidat en 2027.
Et ce qui est très intéressant avec votre podcast, c'est que moi j'y vois une triple vocation. Alors certes, rafraîchir la mémoire de ceux qui ont un peu oublié, dont je fais partie, apprendre à ceux qui n'y connaissent rien, mais peut-être aussi éveiller la curiosité. C'est-à-dire qu'à l'issue des 3 minutes de la durée du podcast, on a aussi envie d'aller chercher, d'aller s'informer.
Oui, parce que effectivement, vous avez raison. Le temps étant limité, ça ne peut être qu'une introduction à quelque chose. Et en fonction des sujets, oui, on peut s'y intéresser. Alors, les pistes d'intérêt, elles peuvent être multiples. On peut s'intéresser, je pense, à l'histoire, puisqu'on parle de la Troisième, de la Quatrième République. Comment on en arrive en France à élire un président de la République au suffrage universel, c'est-à-dire à choisir quelqu'un qui ressemble à notre roi à qui on a coupé la tête. Il y a un remords collectif. Moi, je crois beaucoup dans la politique à un inconscient collectif très fort. Mais très, 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 très fort. Qui fait notre identité commune. Et donc, il y a, je pense qu'il y a chez nous, en France, un remords particulier, singulier, d'avoir coupé la tête du roi il y a bien, bien, bien longtemps. Mais ça n'est pas parce qu'il y a longtemps que ça s'est passé que ça ne pèse pas encore aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, sur nos consciences. Et donc, je peux admettre, ou je suis content de vous l'entendre dire, que ce travail-là, pourquoi on élit le président de la République universelle, ça peut amener chacun à réfléchir, je sais pas quel est le degré de réflexion, mais aux raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Et on découvre ce qui est, à mon avis, formidable, c'est l'histoire de France. On a le droit de parler des candidats à l'élection présidentielle ou pas?
Non.
Bon. Enfin, si vous en citez un, il faut qu'on cite les 12.
Donc je ne citerai pas. Mais enfin, il y a des trafiquants de l'histoire qui m'agacent terriblement, ces temps-ci. Mais je ne citais personne.
Non, on voit très bien de quoi vous voulez parler. Dites-moi, on l'a compris avec la question que vous a posée la petite Juliette tout à l'heure.
Oui.
Ça intéresse énormément les enfants. C'est allons enfants de
la Patrie. Hein, oui, ça intéresse les enfants.
Donc c'est le cœur de cible.
Non, j'y avais pas pensé. Non, moi, alors, pour le coup, non. Le cœur de cible du podcast. Ah non, ça c'est de 7 à 77 ans, oui. Pour reprendre une formule célèbre. Non, je pense que la politique d'aujourd'hui, elle s'enracine dans une histoire commune. Mmh. Donc ça, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent s'y intéresser. Pourquoi on fait un conseil constitutionnel, l'Élysée. L'Élysée, c'est le lieu en France où il y a les premiers graffitis. Mmh. Louis XV y a logé sa maîtresse, et les graffitis, c'est dehors la putain du roi. Le nom m'échappe à l'instant, mais il va me revenir, de la maîtresse de Louis XV. Mais c'est pas grave, c'est pas la Montespan parce que c'était Louis XIV, c'est Jeanne Poisson, mais son nom plus connu n'est pas celui-là. Bon, bref, quand on va faire le malin, hein, quelquefois on se plante.
Hein. Ça s'appelle Madame de Pompadour.
Allons-enfants voilà. Et donc dehors la putain du roi. Ouais. C'est l'un des premiers graffitis repérés dans l'histoire.
Ça s'appelle Allons-enfants.
Ils étaient courageux quand même d'écrire ça.
De l'Apathy, Jean-Michel Apathy, à des enfants. Qu'est-ce que les enfants d'Apathy pensent d'Allons-enfants de l'Apathy?
Alors, les enfants de l'Apathy, il y a deux enfants. Il y en a un qui s'intéresse un peu à la politique et l'autre qui s'en fout complètement. Voilà ce qu'ils en pensent. Et aucun n'a écouté les podcasts.
Bien sûr.
Alors, quand même, moi je précise, remerciement de parents. Chez moi, ça marche du tonnerre. Ça m'épargne des situations de type, c'est quoi cette bouteille de lait? Au-delà d'un déficit de connaissances, hein, certaines histoires et idées ne sont pas super faciles à expliquer à hauteur de mini-citoyens. Comment est-ce que vous vous y prenez, en sachant qu'effectivement, ça s'adresse aussi potentiellement à des jeunes gens?
Il faut...
Parce que c'est assez limpide, je dois dire.
Ouais, vous savez, j'ai fait ça tout le temps. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas beaucoup réfléchi. Les papiers que j'ai pu faire sur France Inter, il y a des lunes de ça, c'était un peu la même chose. Hein. J'ai tout le temps pensé, mais ça c'était une pensée claire et consciente chez moi, que l'une des parts importantes du journalisme politique, c'était de rendre les choses compliquées pour paraître intelligent. Et moi, j'ai toujours voulu faire l'inverse. Voilà. Donc, le podcast, je l'ai fait comme je fais des papiers politiques. Voilà. Il faut essayer d'expliquer les choses, non pas à hauteur d'enfant, mais à hauteur de ce que l'humanité peut avoir de bien et de moins bien. Voilà, avec tout ce qu'il peut y avoir dedans. Voilà.
Allons enfants de l'Apathy, le podcast de Jean-Michel Apathy, disponible sur toutes les plateformes. C'est celui que nous mettons à l'honneur cette semaine dans Pop Podcast. Pour l'instant, rituellement, c'est le moment qui arrive pour la chronique de Charline, ici présente, qui présente cette fois-ci son programme présidentiel. Ça s'appelle le Popcast Marseillaise, s'il vous plaît. Excusez-moi, Régida, c'est un peu too much, ça. Bon, non, c'est trop. Mettez le jingle classique, s'il vous plaît.
Le podcast. Le podcast.
Ah oui, tout de suite plus bricolé. Bon, allez-y Charline, la France vous écoute quand même.
C'est ma France à moi, Antoine, sachez-le. Et on débute cette sélection avec Migraphone, un podcast sur les migrations réalisé par des migrants et des migrantes, un programme dans lequel les participants-participantes confrontent leurs expériences, leurs histoires, leurs analyses sur la question. L'idée étant aussi de se débarrasser de nombreux préjugés, un podcast à l'initiative de deux jeunes femmes, Anna et Ekat, et c'est cette dernière qui explique la nécessité de ce programme.
Alors, la raison pour moi était tout d'abord parce que moi-même, je suis placée dans cette situation où je me suis installée il y a 6 ans en France, le pays qui n'est pas mon pays d'origine, comme on dit. Donc, je suis considérée comme une migrante, comme une étrangère venue d'ailleurs dans un pays où je vis maintenant depuis plus de 6 ans. Et cette situation est vraiment particulière et elle implique pas mal de choses dans ma vie. Et en plus, en échangeant avec d'autres personnes migrantes, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait, malgré la diversité de nos situations, de nos parcours, vraiment, il y avait quelque chose en commun, et cela sur beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, il y a vraiment quelque chose que j'appelle une communauté d'expérience entre les personnes migrantes. Il faut aussi dire que ces échanges avec d'autres personnes migrantes étaient très importants pour moi, notamment pour pouvoir composer avec cette situation de migration dans laquelle je me trouve. Je pourrais dire que ces échanges étaient nécessaires pour ma vie, pour ma survie en France, vitale.
Un nouvel épisode de Migraphone est disponible chaque mois et c'est accessible sur toutes les plateformes.
On change totalement de sujet avec un programme sur ma passion, le ballon.
Jean-Michel Apathy, si je vous harangue en vous disant « ici, c'est... »
Paris.
Ouais, le titre.
J'ai hésité une seconde, mais
c'est l'intonation. Ouais, c'est ça. Le titre de ce podcast, c'est Paris est magique et son objet, c'est évidemment le PSG. C'est écrit par Mélina Boétier, raconté par Fred Musa. L'animateur est fan de la première heure et il s'intéresse à quelques grandes histoires et d'autres méconnues sur le club.
Paris est magique, ce qui produit des effets extraordinaires. Comme en 74, quand l'ex-international français Juste Fontaine s'évanouit, submergé par l'émotion.
J'ai failli passer.
Le PSG vient de se hisser en première division. Ou encore lorsque Rai, quelques mois après son arrivée à Paris, découvre la neige.
L'ambiance magique de Parc des Princes, tout ça a fait que j'ai pu faire un grand match avec des belles actions.
La star brésilienne devient capitaine Rai, le numéro 10 venu d'une autre galaxie. À l'instar de Ronaldinho, applaudi par le Vélodrome lors du Classico de 2003.
Avec Ronaldinho, Hervé, qui va saluer les supporters parisiens, il y avait une fracture. Hein.
Ici, c'est Paris, plus qu'un chant, plus qu'une promesse. Paris est magique.
Et Paris est magique. Je suis désolé, c'est contractuel. C'est dispo sur toutes les applis.
Et enfin, vous proposez un peu de fiction, Charline.
Et même de science-fiction. Telos, c'est une série originale et anthologique sur les voyages dans le temps. C'est créé par Morgane Sommet et Romain Mallet. Extrait du tout premier épisode, Départemental 167. Un homme hurle à la mort. Balthus vient d'être percuté par une voiture sur une petite route de campagne et laissé pour mort sur le bas-côté, mais...
Monsieur ? Monsieur, ça va ? Bougez pas, ça va aller. Tout va bien se passer. Vous êtes blessé où ?
Oh, mes côtes ! Je crois que... Oh, bordel !
D'accord. Évitez de bouger, surtout. Tenez, mettez ça sous votre tête. Voilà, comme ça. Ça va aller ?
Merci.
Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à vous, la moto, là ?
Une voiture m'est rentrée dedans, là. Oh. Juste au virage. J'ai rien pu faire.
Et elle s'est pas arrêtée ? Vous avez vu qui était au volant ?
C'est bizarre, j'ai cru que c'était... Oh, ma jambe !
Faites voir. Oh ! Mais ça saigne de partout !
J'arrive pas à la bouger !
Je crois que c'est cassé, monsieur. On dirait qu'il y a un bout d'os qui dépasse.
Ok. Il va falloir stopper l'hémorragie.
D'accord, mais je sais pas faire ça, moi. Hein ? Attendez, bougez pas.
Qu'est-ce que vous faites ?
Vous pouvez pas rester comme ça, j'appelle les secours.
Non, c'est pas la peine.
Balthus refuse, il doit se rendre au barrage. Le temps lui est compté. Pour connaître la suite, écoutez Telos, c'est un podcast Orson Productions.
Merci Charline. Jean-Michel Apathy, nous continuons à parler de politique et de podcast ensemble dans un instant, juste après un morceau de Serge Gainsbourg, Aux armes, etc.
Sanglant des deuils.
chair. Liberté, liberté chérie. Combat avec tes défenseurs.
Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Allons enfants de la Paty. C'est le podcast de Jean-Michel Apathy qui est mis à l'honneur cette semaine dans Pop Podcast et dont nous parlons avec lui aujourd'hui. Alors l'idée dans ce podcast, Jean-Michel, enfin plutôt le format que vous découvrez, c'est un format qui, alors que vous avez des heures et des heures de radio à votre actif, il y a d'ailleurs radio et actif sont deux notions qui ne collent pas tout à fait ensemble. Enfin bref, comment est-ce que vous l'avez abordé ce nouveau format? Vous qui êtes habitué justement à un peu plus long.
Oui, un peu plus long. Vous savez, sur les plateaux de télé ou dans les studios de radio, au-delà de 3 minutes, vous avez toujours un rédac-chef qui vient vous dire « Non, ça va pas, non ?» Mais je l'ai abordé... Moi, je pensais en fait, peut-être, j'avais pas beaucoup réfléchi à la question, faut bien le dire, mais qu'un podcast qui est un outil où il y a beaucoup moins de contraintes que dans les médias ordinaires, donc qui offre beaucoup plus de liberté, que le temps pouvait justement ne pas être compté. Ouais. Et je suis tombé sur une productrice qui était un peu à cheval sur le chronomètre. Donc bon, voilà, j'ai retrouvé des rédacteurs-chefs qui m'embêtaient un peu dans d'autres circonstances. Mais à l'usage, je pense que c'est plutôt bien.
Et ça vous donne pas envie de développer bien sur un format justement plus ouvert, parce que là, on comprend très bien pourquoi c'est
pas fait... forcément ça. Peut-être d'autres histoires, peut-être. J'ai fait un livre que j'ai adoré faire sur Charles de Gaulle. Pourquoi est-ce qu'en 1962, Charles de Gaulle propose aux Français d'élire leur président au suffrage universel? Et c'est un livre qui... une histoire qui nous ramène des décennies en arrière, qui brasse la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie, la construction particulière, vraiment un peu folle, de Charles de Gaulle. Son père disait de Charles de Gaulle, Henri de Gaulle disait de Charles, il disait il est très intelligent mais il manque complètement de bon sens. Bon, restituer ça, ce manque de bon sens chez de Gaulle, c'est une histoire, un pan important de l'histoire de France. Le faire en podcast, je trouve que ça peut être formidable, de raconter de Gaulle. Et donc ça, vous prenez plus de 3 minutes par épisode.
Je me permets de rebondir, puisque ma fille a donc attentivement écouté Allons enfants de la Paty.
Et très bien, votre fille. Je pense que ses parents sont des gens formidables.
Et justement, écoutez, elle a une petite requête.
Ah. Pour un prochain épisode, j'aimerais beaucoup que vous répondiez à une des questions que je me pose. Pourquoi est-ce que tous les candidats à la présidentielle ou presque parlent de Gaulle, alors qu'aucun d'entre eux ne l'a connu?
La question est excellente, elle mériterait un long développement, parce que c'est le personnage le plus complet de notre histoire. C'est un chef de guerre et c'est un démocrate. Et ça, vous avez tout ce dont un pays peut rêver. Charles de Gaulle, il faut le savoir, jusqu'à avril 1942, il a failli tomber du mauvais côté de la force. Il a fallu que les résistants fasse pression sur lui pour qu'il signe un texte en faveur de la République. De Gaulle, qui venait de la droite, assez dur, a toujours été ambigu. Mais il est tombé du bon côté. Et quand il revient au pouvoir en 1958, pour nous libérer du fardeau algérien, il le fait, il aurait pu rentrer à l'Élysée avec les chars. Il ne veut pas le faire, il revient en démocrate. Et du coup, c'est une figure qui a sauver l'honneur de la France en 40 et sauver la démocratie en 58. Et donc, on ne peut pas trouver mieux. Sans doute faudra-t-il des siècles pour qu'un individu propose au pays une aventure aussi gigantesque. Et donc, De Gaulle est, en France, une référence absolue. Tous sont gaullistes, même des candidats, je ne citerai pas leur nom, qui ont honni De Gaulle, qui ont craché sur De Gaulle. Ils sont tous gaullistes aujourd'hui. Bon, voilà, c'est un peu d'opportunisme pour ceux qui les concernent, mais De Gaulle est une référence indépassable pour très 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 longtemps sans doute.
Est-ce qu'il n'est pas passionnant le Jean-Michel Apathy?
Bah si, je crois que ça pourrait durer des heures.
Je reste suspendu. Fantastique.
Puisqu'on parle de...
quand vous voulez.
Puisqu'on parle de podcast, on peut dire que c'est relativement nouveau dans une campagne présidentielle. On comprend les vertus informatives de l'outil, mais quel genre de support est-ce que c'est le podcast pour les candidats? C'est un nouveau vecteur aussi de communication.
Oui, bien sûr, mais les candidats ont utilisé le podcast? Pas beaucoup, si.
J'ai l'impression, quelques-uns.
J'ai pas vu qu'il y avait des podcasts, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux.
Ouais.
Tous s'y sont mis. Mais les podcasts, non, les podcasts, c'est... En fait, les podcasts, c'est on peut raconter beaucoup d'histoires, on peut présenter des univers de manière assez rapide et assez simple à des gens qui sont un peu éloignés. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Charline, sur l'immigration ou les migrations, c'est passionnant. À un moment où l'immigration est un sujet de débat important en France, on en parle comme on en parle, c'est-à-dire pas toujours très bien, sans toujours considérer que derrière ces mots-là, il y a des êtres humains, des vies fracassées, des vies douloureuses. Eh bien, prendre connaissance par l'intermédiaire d'un podcast de ce que sont les migrations, c'est très facile d'accès, c'est très facile à faire, et ça aide vraiment à la citoyenneté dans ce cadre-là. Ben, il y a une telle diversité dans les podcasts qu'on pourrait trouver à chacun son charme, mais les candidats l'ont peu utilisé parce qu'ils n'ont pas encore compris comment faire de la démagogie avec, mais quand ils comprendront, ils le feront.
Jean-Michel Apathy, vous souhaitez avec ce podcast, je vous cite, inciter à voter, réconcilier avec la politique ou tout simplement rafraîchir les idées. C'est un pitch qui somme un peu comme un programme politique, parce que à force de suivre les présidents, ouais. Est-ce que vous n'auriez pas tout simplement envie de le devenir. Et je vous ai entendu que vous ne serez pas candidat en 2027.
Voilà, c'est-à-dire, je le deviendrai avec plaisir s'il ne fallait pas en passer par l'élection.
Mm-hmm.
Si, de manière unanime, tous les Français me demandaient d'aller à l'Élysée, j'irai.
Mais vous
à ce
êtes,
moment-là,
bah,
pour prendre les choses en main.
Voilà.
Mais s'il faut passer par l'élection, donc ça, je crois que ça m'ennuierait beaucoup. Oui.
Alors, rafraîchir les idées, c'est...
Il faut que je trouve un Premier ministre. Ça pourrait vous intéresser, vous
croyez? Écoutez, faudra qu'on en discute en aparté, si je puis dire. Alors, rafraîchir les idées, c'est important quand certaines sont entre les mains de pyromanes.
Oui, rafraîchir les idées, c'est important, oui. Moi, je parie beaucoup et le rappel de l'histoire. Rafraîchir les idées, c'est vraiment en revenir à ce que nos aînés ont vécu, rappeler les combats qu'ils ont menés, expliquer pourquoi, de manière positive ou négative, nous en sommes là aujourd'hui. Je crois beaucoup à ça. Le fond pédagogique, c'est celui-là. Et on se rend compte, en essayant de réfléchir de cette manière-là, que ceux qui nous ont précédés étaient aussi intelligents et aussi bêtes que nous. Et que ce sont souvent les mêmes combats que l'on mène et que l'on perd. Et peut-être que, en rafraîchissant la mémoire et les idées, peut-être qu'on peut éviter de refaire toujours les mêmes bêtises. C'est peu probable. Mais faut toujours croire.
Faut y croire, bien sûr.
Ouais, si on n'y croit pas,
évidemment.
Si on n'y croit pas, ça vaut pas le coup. Hein.
Et puis c'est bien de rappeler aussi que l'histoire, c'est pas une donnée subjective.
Non, exact. Enfin, ça l'est toujours un peu parce qu'on l'aborde toujours sous un prisme à soi, en quelque sorte.
Oui, mais les faits restent les faits.
Oui, absolument. Il y a quand même des choses qui se sont passées et quand on les raconte, voilà, elles sont là devant nous. Donc, oui, bien sûr.
Et comment justement est-ce que vous faites le tri dans la vaste étendue des sujets que vous pouvez traiter dans le podcast?
J'ai fait ça vraiment, là pour le coup, au feeling. Enfin, il n'y a que moi qui est. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai parlé du nucléaire tout à l'heure et j'ai parlé de la dette. L'équipe de la Tour des Surécoutes m'a suggéré des sujets j'y aurais pas forcément pensé. Oh, l'histoire de Brégançon, ou je sais pas si c'est eux ou si c'est moi qui ai eu cette bonne idée. Qu'est-ce qui se passe si un candidat meurt pendant la campagne présidentielle? Mettons que ça soit eux, parce que moi je suis un type assez formidable, mais peut-être que j'ai pas eu toutes les bonnes idées, eux aussi, voilà, donc on va aussi sur des terrains auxquels on n'a pas forcément pensé. L'exercice vous amène sur des terrains voilà, et où il y a toujours des choses à dire. Et c'est vrai, qu'est-ce qui se passe si un candidat meurt? Écoutez,
enfin... Allons enfants de l'Apathy, du lundi au vendredi sur toutes les plateformes, et c'est évidemment plus que chaudement recommandé par Popo Podcast. Bravo, bravo Jean-Michel. Un peu plus vite, Popo Podcast.
Popo Podcast.
Encore mieux. Pop Break dans ce numéro de Popo Podcast, c'est l'heure des Pop News. Et des pop news est spécial.
Vous aimez les late shows américains, mais vous n'avez pas toujours l'occasion de les regarder, entre autres raisons parce qu'ils ne sont pas diffusés en France. Plus de frustration, vous pouvez dorénavant les écouter.
Please have a seat, ladies and gentlemen. Welcome Welcome, one and all, to The Late Show. I'm your host, Stephen Colbert. But enough about me. Jon Batiste won 5 Grammys last night.
Le Late Show de CBS se décline aussi en audio, The Late Show Pod Show with Stephen Colbert. Et si je vous en parle, c'est qu'il fait partie des programmes nommés aux Webby Awards, les Oscars de l'Internet. Et c'est aussi dispo sur toutes les applis. Alors, comment vous présenter le podcast qui suit? On va dire un programme musical, puisque son hôte accueille des invités dans son sous-sol, accompagné d'un énorme groupe. L'hôte en question s'appelle Alex Horn, il est britannique, comédien, créateur d'un jeu télémusical très populaire, Taskmaster. Et dans son podcast, The Horn Section, il nous promet, je cite, le chaos musical et beaucoup de rire. Le programme n'est pas récent, mais comme il est hilarant, ça mérite un rattrapage avant son retour. Par exemple, dans un épisode, ils reçoivent Robbie Williams et lui lancent un défi, reconnaître ses propres chansons, réinterprétées par Alex Horn, qui ne chante que les 2 premières lettres de chaque mot et pas sur la mélodie.
Miwi th flush, kiwi yo to, boge hi an th gi ev moso, why yo ha if yo no we th ma. Mark, yes.
It's millennium.
No, it's not. No, it goes over. Ka I ki it ye yo ka. I go fa.
Rock DJ.
It is Rock DJ, Robbie. It is.
The Horn Section, c'est dispo sur toutes les applis.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Yeah, that's me.
Robbie Williams?
Non, Stephen Colbert. Merci, Charline. Jean-Michel Apathy, vous restez avec nous dans la suite de Pop, pop, podcast. Nous allons parler de podcast et encore de podcast. Ce sera juste après un morceau de votre opposé capillaire. C'est Sébastien Tellier. Sébastien Tellier, c'était le morceau porté par le vent et aujourd'hui le vent nous mène, vous mène sur France Inter, car oui, vous écoutez Pop Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast.
Oh, mais quoi ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais le voilà! Mais oui, je vois qu'il a mis son slip tricolore pour l'occasion. Bonjour, Cosmo Flash.
Bonjour, Antoine. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour, Charline.
Très élégant, Cosmo. Je vous présente donc Jean-Michel Apathy, qui parle de choses sérieuses, lui. Et vous, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Cette semaine, je vais vous parler à travers quelques exemples de la relation entre les élections présidentielles et le podcast, et notamment aux États-Unis.
De podcast, donc. Et de podcasts politiques.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Okay. Alors, depuis très longtemps, maintenant, on a l'habitude d'associer les élections avec des types de médias émergents au moment du scrutin. En 2007, en France, on a parlé de l'influence des blogueurs. En 2008, la campagne de Barack Obama avait été l'une des premières à utiliser efficacement les réseaux sociaux, naissants à l'époque. Et on sait maintenant le rôle crucial qu'a joué Facebook dans l'élection de Donald Trump en 2016. Alors, naturellement, je me suis posé la question de savoir si les élections présidentielles pouvaient désormais se jouer en podcast et quel rôle ce média peut avoir dans la stratégie des candidats. En France, on a peu d'exemples de candidats ou de familles politiques s'étant livrés à cet exercice, mais aux États-Unis, bien évidemment, le podcast avait déjà fait ses preuves. En 2016, c'est Hillary Clinton, la candidate démocrate, qui s'était livrée à cet exercice en lançant un podcast With Her, avec elle en français, pour suivre ses trois derniers mois de campagne. Le podcast s'est arrêté le 7 novembre 2016, un jour avant l'élection. À la suite, hein, vous la connaissez, c'est Donald Trump qui l'emporte à la surprise générale.
Ah bon ?
Oui. Et il faudra quasiment un an pour qu'Hillary Clinton se réinstalle au micro de son podcast pour raconter la nuit de l'élection et épiloguer sur sa campagne. Dans l'extrait qui va suivre, elle vient de se lever d'une petite sieste pendant la nuit. Elle rejoint sa war room et elle décrit les visages d'enterrement et l'incrédulité de ses équipes.
Well, what happened next is that, you know, I walked into the main room in the hotel to see a lot of very grim faces. My campaign chairman and manager, other staff members, friends, family members. Just with a look of disbelief. And, you know, I still have something of that disbelief because it just didn't add up from what we were seeing, what we were testing, early vote totals. It was just hard to take on board.
Alors, l'intimité du format podcast aurait dû offrir une occasion de se montrer plus personnelle et décontractée avec les électeurs américains, mais force est de constater que ça n'a pas tout à fait fonctionné. Malgré tout, ce podcast est important parce qu'il nous donne un témoignage précis, sensible un peu de cette période, et surtout on y entend pour la première fois, à l'époque, le récit de cette soirée historique du point de vue de la candidate en fait. Aux États-Unis, la politique c'est aussi un tremplin pour se lancer dans le podcast, c'est le cas de quatre anciens collaborateurs de Barack Obama, John Favreau, John Lovett, Dan Pfeiffer et Tommy Vitor, bon là c'est leur prénom, ces quatre garçons dans le vent lance en 2017 leur podcast Pod Save America, petit jeu de mots est sympa. Le succès est largement au rendez-vous, l'émission compte en moyenne plus de 1,5 million d'auditeurs par épisode, et le format est très simple, c'est une conversation sans tabou sur l'actualité politique avec des explications précises de spécialistes du paysage politique américain. Par exemple, dans l'un des derniers épisodes, Jon Favreau, qui est un peu la voix principale du podcast, nous parle d'une interview surréaliste de Madison Cawthorn. Alors lui c'est un député républicain du Congrès, et dans cette interview il accuse les collègues de son parti d'organiser des orgies et d'être addict à la cocaïne. Ça fait beaucoup réagir son camp, vous imaginez bien. Et du coup, John nous explique qui est ce monsieur et ses liens avec la droite conspirationniste.
So, Madison Cawthorn says this. Keep in mind, Madison Cawthorn has said a number of completely batshit crazy things. He cheered on the insurrection. He's had a racist website that he's been called out for. Like, the guy is bad news. He's like fringe right Marjorie Taylor Greene territory. But this, Dan, this statement about the coke orgies, this got Republicans pretty upset.
Voilà, alors pour le New York Times, hein, Pod Save America, c'est vraiment l'un des grands succès du mouvement de résistance entre guillemets à Donald Trump. Et c'est un peu la réponse des démocrates aux talk show conservateurs de Fox News et consorts.
Bon, un dernier podcast pour la route.
Voilà, bien sûr, j'en ai toujours un dernier. Et le dernier, donc, c'est plutôt ce que je qualifierais d'un outil plutôt militant pour la politique aux États-Unis. Il s'appelle Chapo Trap House. Alors je traduirai pas parce que c'est une blague qui a plein d'explications différentes et j'ai pas 2 heures devant moi. Et donc ça, c'est un podcast politique d'humour lancé en 2016 par 3 comédiens connus sur Twitter et 2 journalistes. Le podcast s'est notamment fait connaître durant l'élection présidentielle américaine donc de 2016 pour son commentaire de gauche à rebours de l'establishment démocrate et favorable au candidat Bernie Sanders. Chapo Trap House a notamment donné aux personnes frustrées par le parti démocrate un peu d'air frais alors que les perspectives de victoire de Sanders à la primaire s'étaient assombries. Alors pour vous donner le ton, je vous mets un extrait du dernier épisode en date qui commence avec un petit résumé de l'actualité et notamment la première victoire d'un mouvement syndical chez Amazon.
Big, big victory on the union vote for the Amazon people. And I will say, for listeners, we should have an interview coming tomorrow, if all goes well, that should be of some interest if you've been following this case. But
we'll be interviewing Jeff Bezos.
Voilà, l'émission est étroitement liée à la culture Twitter et un discours de gauche moins policé, parfois plus vulgaire que les médias mainstream. Et c'est bien ça qui a fait son succès. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle. Le podcast engrange plus de 250 000 téléchargements par épisode et reste entièrement indépendant grâce au soutien de plus de 35 000 mécènes sur la plateforme Patreon. Un business juteux puisque ses soutiens rapportent aux producteurs du podcast plus de 150 000 dollars par mois. Ce qui fait donc de ce contenu politique l'un des succès économiques les plus impressionnants dans le petit monde du podcast.
Merci, Cosmoflash. Dernière question, les super-héros, ça vote?
Alors non, j'arrive pas parce que tous les bulletins volent de partout quand j'étais au bureau de vote, donc c'est trop compliqué.
Même en slip moule urne.
Je vais y aller du coup, Antoine.
Oui.
Oh, il a pas aimé ma vanne, il est reparti directement. À la semaine prochaine, Cosmo. Jean-Michel Apathy, vous restez avec nous. Ce sera d'ailleurs à votre tour de nous conseiller un podcast dans un instant, juste après un morceau qui a été joué en live sur cette scène par les Rock Farmers du groupe Inspecteur Clouseau. Ça dit quelque chose?
Ça me dit quelque chose.
Je vous propose d'écouter Brothers in Idols.
Just 18 years old, couple of country guys, full of ideals. That's how we were, doing physics together, just couple of serious guys. We were the same road, we never knew where it will go. And now, this much we know, ain't love the place we wanna be. Look at us now, out here on the farm, with our music and these just couple of country guys. We all learned so much, now it's so clear, all that we want is right here. We know, hell of a place.
Brothers in Ideals, c'est l'inspecteur Clouseau, c'était un live lors de leur passage dans Pop Pop Pop. Jean-Michel, je connais votre passion cachée, très cachée, enfouie
cachée,
même.
On va la garder cachée s'il vous plaît. Alors.
Pour Jean-Pierre Foucault, sachez que nous partageons la même, hein, au point d'avoir nommé ici une séquence, le podcast, c'est-à-dire le podcast que l'on conseille à un ami, en référence évidemment au mythique coup de fil à un ami de Jean-Pierre. Jingle. Son petit effet. Bon, alors le podcast que vous voulez conseiller à un ami, c'est Les Garde-Fous. C'est un programme qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui, produit par Alix Philippot, Baptiste Dupin et Samuel Haussan. Et vous nous citez plus particulièrement cet épisode sur la dépression et le témoignage de Gabriel.
Les gens ont tendance à me dire mais non, mais c'est pas à toi de dire ça, c'est un spécialiste, etc., qui doit mettre le mot là-dessus. Donc j'ai vu des psys, psychiatres aussi, enfin j'ai vu une psychiatre et des psys. Et on n'a jamais mis ce mot-là là-dessus. Et d'un côté, moi, je pense que j'avais envie qu'on mette l'étiquette là-dessus parce que ça m'aurait rassurée. Je me serais dit, bon, bah voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai cette hypersensibilité et ces réactions complètement démesurées, quoi. Mais ça n'a jamais été posé. Donc, c'est plus moi qui ai dû m'auto-diagnostiquer. Après, du coup, j'ai pris, je prends toujours des médicaments, mais sans ce diagnostic-là, en fait.
Les garde-fous, voilà la recommandation podcast de Jean-Michel Apathy. Pourquoi avez-vous choisi ce podcast-là en particulier ?
La médecine, c'est l'histoire de gens qui s'intéressent à la mécanique. Comment fonctionne un corps, c'est rationnel. Et l'histoire de la médecine est passionnante parce que les progrès sont des progrès hasardeux, difficiles. Et puis il y a cet autre aspect sur lequel on réfléchit trop peu, et donc donner la parole à des gens qui sont en dépression est de ce point de vue très très utile. Cet autre aspect qui est que c'est le patient qui doit faire son diagnostic. Mmh. C'est lui qui doit arriver avec les outils de l'analyse, de la psychanalyse, à comprendre ce qu'il vit. Et il est son propre médecin, par la parole. Il doit expliquer ce qu'il ressent. Et ce qu'il ressent le renvoie à un traumatisme ou pas. Parce qu'évidemment, s'il a été violé à 11 ans, c'est facile. Mais enfin, s'il l'a pas été, tout est plus diffus, plus difficile à trouver. Et c'est par cette action personnelle du malade que le malade est son thérapeute. Et tous ces témoignages, celui que l'on entend, explique très bien cela. C'est l'autre versant de la médecine. Là, ce ne sont pas des mécaniciens qui vous aident, ou alors des mécaniciennes de l'âme, ce qui n'est pas grand chose. Mais c'est vraiment le patient qui lui-même doit faire son chemin. Et la dépression, le mal-être, ça concerne tout le monde, à des étapes différentes de la vie. Il y a vraiment que les gros cons qui n'ont aucun problème de ce type. Donc, on ne donnera pas de nom là non plus, puisqu'on n'a pas le droit, on est en campagne électorale. Voilà, c'est assez riche comme podcast.
Le podcast recommandé par Jean-Michel Apathy.
On a compris de qui je voulais parler.
Oui, non. Très bien. Les garde-fous. Les garde-fous, ouais. C'est disponible sur toutes les plateformes.
Les bonnes plateformes.
Merci Jean-Michel, merci de nous avoir rendu visite.
J'étais ravi d'avoir passé ce
moment
avec vous.
Moi aussi, ça m'a fait très plaisir, mais très sincèrement.
Antoine, Charlène.
Charline, alors je rappelle.
Charline, pardon.
Et Thomas.
Et Thomas, voilà.
Et Thomas, enfin, Cosmo.
Et puis tant d'autres gens.
Mais tous ceux qui nous regardent en régie, là, ils sont fous, ils sont légion. Bonjour les amis, regardez, ils font tous des signes, on dirait un aquarium. Alors je rappelle que Allons enfants de l'apathie, votre podcast est à suivre du lundi au vendredi sur toutes les plateformes. Merci Charline.
Merci à vous.
À lundi et merci aussi à toute l'équipe de Pop Pop et à Alexandre Chenet qui était à la technique aujourd'hui. Lundi dans Pop Pop, deux chefs, Alexia Duchesne et Victor Mercier pour une spéciale food. Nous avons lundi rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop. Dans un instant, retrouvez Charline Vanhoenacker et toute son équipe pour un nouveau numéro de Par Jupiter.